les chavous mitzraïma, qui reviennent en Égypte. Vous voyez déjà la correspondance. La deuxième fois du mot ham, c'est ceux qui voulaient retourner en Égypte. Alors soulignez le deuxième état. Et Dieu fit contourner le peuple par le chemin du désert de la mer Rouge. C'est la troisième fois qu'il y a le peuple. Vachamushim alu bene Israël meret Mitzrayim, et les enfants d'Israël partirent armés du pays d'Égypte. Alors là, vous soulignez, Bene Israël. Alors vous remarquez, on a trois fois Haram. Ensuite, Bene Israël, ça fait quatre. Et nous allons voir la correspondance de cette structure avec les quatre niveaux de l'identité d'Israël, tels qu'ils sont indiqués par le Midrash. Okay. Il y en a trois qui sont appelés Haram. La quatrième est appelée Bene Israël. Ensuite, vous avez une cinquième qui est un peu plus loin dans le récit. Vous n'avez pas dans les pages qu'on vous a données. Il m'en manque une d'ailleurs. Tu peux me donner la deuxième page comme ça en hébreu. Oui, elle n'est pas là. Alors prenez votre texte français. Je vous donne ici. Vous avez la page 92 dans votre texte ici. L'Éternel fortifia le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, qui se mit à la poursuite des enfants d'Israël. Cependant, les Israélites s'avançaient triomphants. Voilà l'expression en hébreu, c'est Bnei Israël, Yotzim Beyad Rama. Et les enfants d'Israël sortaient la main haute, la main élevée. Alors là, vous soulignez de nouveau, c'est la cinquième expression. Voilà la structure qui apparaît. Vous avez donc cinq niveaux. La première fois, Aram, le peuple. La deuxième, Aram. La troisième, Aram. La quatrième, Né Israël. Et la cinquième, Né. Vous voyez les éléments du problème. Alors, retrouvez ce texte, déjà pour demain, pour voir la correspondance des niveaux d'identité. D'un point de vue formel, ce qui apparaît là, c'est que le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte est bien évidemment une entité, une unité, seulement il y a différents niveaux d'identité. Alors, quelle est la différence lorsque le mot qui est employé, c'est le mot Ham, le peuple, et lorsque le mot qui est employé, c'est Bnei Israël? Pour y arriver, et nous allons d'abord passer par un schéma de la Kabbalah, les différents niveaux de la Neshama. De nouveau, nous avons la même structure. Vous savez qu'il y a cinq mots en hébreu pour dire les niveaux d'être de la Neshama, c'est-à-dire, on va traduire en français provisoirement, l'âme humaine. Le premier niveau s'appelle Nefesh. Le deuxième niveau s'appelle Ruach. Le troisième, Neshama. Le quatrième, Haya, et le cinquième, Yeshua. C'est-à-dire, nous retrouvons là dans cette structure, au niveau de l'être collectif du peuple, la même structure formelle des niveaux d'identité à l'échelle individuelle. Alors, cet enseignement que je vous explique là vient du péritatique. Le Rav Tzadok HaKohen de Lublin, qui a écrit un commentaire sur le Chumash, inspiré de l'enseignement du Hari de la Kabbalah, et qui met en évidence cette structure des cinq niveaux de l'âme humaine à l'échelle individuelle dans l'identité collective du peuple. Et par conséquent, cela signifie que dans cet ensemble 1 du peuple d'Israël sorti d'Égypte, apparaissent ces différents niveaux d'identité correspondant aux différentes réactions que la Meshita que je vous ai citée tout à l'heure avait décrites. Bon, alors l'étude d'aujourd'hui, ça sera de lire ces premiers versets du texte de telle sorte de comprendre, d'après ce que nous enseigne la Torah, la signification de ces différentes réactions. Voilà, alors les préliminaires sont un peu achevés. S'il n'y a pas d'autres questions, si rien n'est resté obscur, on peut commencer l'étude à proprement parler, c'est-à-dire avec donc ces deux pages. Okay. Oui. Alors, je vais relire tout cela. Vaïli, Béchalar, Pharaon et Aram, et il arriva lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple. Je vous signale les principales questions d'exégèse qui se posent à nous et que nous aurons à utiliser pour comprendre le thème en fait. Premier étonnement, dans tout le récit précédent, la Torah veut nous faire comprendre que c'est Dieu lui-même qui intervient pour sauver le peuple d'Israël de l'esclavage de Dieu. Et en particulier le récit des 10 plaies. Et ici, nous avons un étonnement massif. Comment s'exprime le texte de la Torah dans notre verset ? Et il arriva lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple. Vous voyez le contraste ? Alors maintenant, on apprend une chose tout à fait différente. Tout se passe comme si ce n'est pas Dieu qui est intervenu pour délivrer Israël, c'est le pharaon qui va prendre l'initiative de renvoyer le peuple. Un tout autre récit. Vous voyez quel est le premier étonnement ? Qui pourrait résoudre la difficulté ? Ça ne suffit pas, la contradiction reste. Parce que le fait que ici, dans ce contexte-là, la Torah ait préféré la formulation négative, et j'ai ouvert une parenthèse pour éclairer un peu cette manière de répondre, c'est pas que c'est faux, mais ça ne suffit pas à résoudre notre difficulté. En vous rappelant un midrash à propos de Pourim, puisqu'on vient à peine de sortir de Pourim, je suppose ici aussi. Enfin, Jérusalem a eu 4 jours de Pourim, vous savez comment marche le calendrier. C'est jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Chez vous, ici, c'était vendredi, samedi. Vous vous rappelez que dans la Megillat d'Esther, le nom de Dieu n'apparaît pas. Vous vous rappelez de ce problème. Et la réponse classique, qui n'est peut-être pas complètement complète, mais qui n'est évidemment pas fausse, c'est qu'étant donné que la Megillat d'Esther était destinée à être traduite dans toutes les langues des provinces de l'Empire d'Assuérus, on avait craint que le mot Dieu, écrit en hébreu, le nom propre du Kéraké, le tétragramme, soit traduit par le mot correspondant des différentes langues non juives, et que par conséquent apparaisse une notion idolâtre. Cette explication n'est évidemment pas fausse, mais elle n'est pas suffisante, parce qu'il est bien évident que ce risque existait pour tous les livres de la Bible. En fait, il y a d'autres raisons. Mais en particulier, je pense qu'il faut relier cela à cette atmosphère de clandestinité dans laquelle l'identité juive de ce temps-là commence à rentrer. Et vous remarquez que toute l'atmosphère de la Megillat d'Esther est une atmosphère de stratégie, de camouflage, de déguisement. D'ailleurs, je crois que c'est le mot. L'identité de Pourim dévoile que l'identité juive est une identité de déguisement par rapport à l'identité hébraïque. Mais d'une certaine manière, un juif est un hébreu déguisé. Ici, dans ce cas-là, et c'est comme ça que l'histoire de la grande diaspora commence, avec le temps de Mardoché et Esther, c'était à cette époque-là un juif déguisé en Perse. Et alors il y a une atmosphère de clandestinité. Vous retrouvez les éléments du récit dans la Megillat d'Esther. Okay, l'atmosphère générale de cet empire d'Assuérus, tel que la Megillat d'Esther le décrit, c'est celle d'un empire extrêmement libéral. Vous reprenez les premiers versets dès le début, c'est qu'il y a une autonomie de chaque province, de chaque peuple, chacun garde sa culture, sa langue, sa religion, les ministres d'Assuérus sont les princes des différents peuples qui gouvernent. La constitution de cet empire est extrêmement libérale. Il y a un cas particulier, c'est celui des Juifs, qui se trouvent dans cet empire, mais avec un cas particulier, ce sont les seuls qui n'ont pas de territoire correspondant dans l'Empire. Et voyez à quel point nous avons là la description de l'identité du juif de diaspora de l'origine. Okay. Et alors on entre dans une atmosphère de clandestinité. Okay. Et tout est clandestin, et on n'ose pas exprimer son identité en tant qu'hébreu, puisqu'on est entré dans une époque de l'histoire où cette identité hébraïque, il faut la déguiser dans l'identité juive qui, en ce temps-là, cherche à se justifier en tant que perse. Et tout de suite, ça trompe pas Haman, le parti au pouvoir des Amalécites qui dénonce le déguisement. C'est clair tout de suite. Il y a un rite de la fête de Pourim qui dévoile cela. Vous avez remarqué qu'à Pourim, on se déguise. Mais le déguisement traditionnel à Pourim, c'est de se déguiser en juif. Oui. C'est-à-dire, le jour de Pourim, on se déguise en juif pour dévoiler qu'en réalité, l'identité juive, c'est l'identité hébraïque déguisée.
Est-ce que c'est clair?
Oui, c'est une sorte de rite de purification de l'identité de déguisement, par le déguisement. Et si vous remarquez, enfin, dans les anciennes communautés traditionnelles, c'était le déguisement classique de Pourim. On se déguisait en juif. Et c'est extraordinaire, vous avez encore des quartiers en Israël, comme à Shaarim, où le déguisement par excellence, c'est de voir les chassidim se déguiser en chassidim. Mais ils y arrivent. Vous voyez à peu près ce que... c'est pas clair. Bon, on va faire un petit peu de sociologie politique. Cette identité juive, elle apparaît dans les récits de la Bible, dans le livre d'Esther. Et voilà quel est le verset central. C'est Ish Yehudi, Haya, Beshushan Abira, Ushmo Bordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. Je traduis, vous allez voir pourquoi j'ai cité le verset. On nous dit, il y avait à Suse, la capitale de l'Empire perse, il y avait un homme Yehudi, Ish Yehudi. Nous sommes tentés de traduire par juif, mais je vais d'abord traduire par judéen. Il y avait un homme du royaume de Juda qui venait d'être détruit au temps de Yechonia, le dernier roi de Juda, du temps de la destruction du premier royaume de Juda. Les judéens sont déportés en exil dans la Mésopotamie. Et c'était l'empire de Babel. Cet empire de Babel, à l'époque du récit de la Megillat Esther, a pour dynastie régnante une dynastie perse, qui est celle de Assuérus. Vous suivez, hein? Si vous voulez, demain je pourrais vous donner les dates précises de ces événements. Voilà donc ce qui se passe. Les derniers des Hébreux, les judéens, se trouve en situation d'exil dans l'Empire perse. Okay? Et c'est déjà là que le mot de Yehudi, qui étymologiquement signifie judéen, va signifier juif dans le sens classique que nous avons depuis ce temps-là, c'est-à-dire 2600 ans. C'est le commencement de l'identité d'une communauté de diaspora à la destruction de la métropole qui était le premier royaume de Juda. Vous vous rappelez qu'après le temps du roi Salomon, le temps du Baït Rishon, il y a eu un schisme. La nation d'Israël s'est divisée en deux. Le royaume du Nord groupait 9 tribus et demie autour de la tribu d'Ephraïm, qui était la tribu principale, et le royaume du Sud ne groupait que 2 tribus et demie, Juda, Benjamin et la moitié de la tribu de Manaché, qui s'était divisée entre les deux royaumes. C'est clair jusque-là. Or, pourquoi on a appelé Yehuda le royaume du Sud? C'est parce que la tribu dominante du royaume du Sud était la tribu de Juda. Et donc nous avons 3 niveaux d'identité. Les judaïtes, c'est les membres de la tribu de Juda. Les judéens, c'est les membres du royaume de Juda. Dans l'exil, ils s'appellent les juifs. Mais le mot de juif, c'est un peu la corruption à travers le latin du mot de judéen. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Vous voyez les 3 sens du mot yéhoudi. Premièrement, membre de la tribu de Juda. Mais comme c'est la tribu de Juda qui a donné son identité dominante au royaume de Juda, tous les membres du royaume de Juda, même s'ils n'étaient pas de la tribu de Juda, s'appellent yéhoudim. Les judéens, c'est clair. Et quand les judéens ont été déportés, l'histoire de la communauté juive commence. Et elle commence où? En Perse. Ça va jusque là. Bon, peut-être que c'est de notre temps que cette histoire s'achève, puisqu'avec les événements de Perse, il est probable que cette histoire qui a commencé au temps de Mardoché et Esther s'arrête de notre temps. Vous voyez les successions des mondes dans l'histoire. Or, qu'est-ce que c'est que cette identité juive? C'est l'identité hébraïque, mais déguisée dans l'identité de l'homme de diaspora en Perse. C'est-à-dire que c'est un juif, un hébreu, déguisé en Perse. Et sachant qu'il est déguisé. Déguisé, ça veut dire camouflé, vous comprenez? D'où cette atmosphère de clandestinité qui apparaît dans la vie de la Bible. On n'ose pas dire qui on est vraiment. On n'ose pas parler de son propre Dieu. On ne parle de Jérusalem
que par allusion que c'était de là-bas que nous étions exilés.
Asher Ogla Mirushalayim.
Mais la capitale, c'est Suse.
Je ne veux pas trop identifier ça de façon
abrupte, mais c'est très exactement la situation sociopolitique du juif de diaspora contemporain. On a une allusion à Jérusalem, mais la capitale, c'est Londres, la capitale, c'est Paris, la capitale, c'est New York. Ça commence en Perse avec, comment dire, avec Mardochès. Alors la tradition va intervenir là-dessus, en instituant le rite du déguisement à Pourim. Et en quoi le juif se déguise à Pourim en juif? C'est-à-dire, un juif déguisé en juif, ça veut dire qu'il dévoile qu'en réalité il est un hébreu. Ça peut être simple que ça. Alors, je vous termine la fin du verset, et c'est d'ailleurs de cela que Aman va les accuser. C'est-à-dire, votre déguisement ne sert à rien, nous savons très bien qui vous êtes. Vous voyez, et le verset dit donc, Ish Yehudi Ayar Beshushan Abira, un homme juif, ça veut dire originaire du royaume de Juda, se trouvait à Suse, la capitale, et ici un homme, ça ne veut pas dire Stam, un individu, connaissez le sens biblique du mot Ish, ça veut dire une grande personnalité, un Ish, c'est pas n'importe quoi. Okay? Donc, une personnalité de cette communauté exilée se trouvait à Suse, la capitale, et son nom était Mordechai, Ben Yair, Ben Kish, Ben Shimi, en nom le nom de ses ancêtres, Ish Yemini, homme de la tribu de Benjamin. Et comment l'appelle Yehudi? C'est qu'entre-temps, ça signifie plus membre de la tribu de Juda, mais ça signifie juif, c'est-à-dire originaire du pays des Judéens.
Je pense que c'est aussi la manquette.
Les Judéens étant les derniers des Hébreux de l'histoire. Mais quittant le pays d'Israël, la Judée de l'époque, si vous voulez, eh bien, ils ne sont plus Hébreux, ils sont Juifs. C'est-à-dire quoi? Donc, leur identité est une identité mixte. Se présente comme Perse, comme les autres Perses, avec le droit à la différence qu'avaient toutes les peuplades de cet empire qui avait une constitution extrêmement libérale. Mais le cas particulier des Juifs apparaît là. Et c'est suffisamment clair. Je crois que l'exemple le plus frappant de notre temps, c'est l'Empire soviétique, qui théoriquement a une constitution très libérale, mais qui se heurte au même problème d'un des peuples de l'Empire soviétique qui n'a pas de relation territoriale dans l'Empire et qui fait problème. Vous voyez à peu près Je crois qu'on peut même pousser la comparaison un peu plus loin. C'est-à-dire, dans l'Empire perse, il y avait deux cas particuliers. Le parti au pouvoir, c'était les Amalécites, et la communauté juive. Et bien, de la même manière, on peut dire qu'en Russie, on a la même structure aujourd'hui. Il y a le parti au pouvoir, c'est-à-dire le parti communiste, les Amalécites, et le peuple juif. Et puis ce même conflit, quel que soit le caractère absolument libéral et indéniable, théoriquement, de la constitution officielle. Voilà, c'est dans... C'est exactement cette même histoire qui se produit depuis 2600 ans dans toute l'histoire des communautés de diaspora, quel que soit le style de l'apparence extérieure. Mais l'apparence extérieure, c'est le déguisement de Pourim. Alors c'est pourquoi il est dévoilé à Pourim par un déguisement au second degré. Bien. Donc pourquoi je vous ai parlé de tout ça? En revenant à votre question. Ah oui, attendez, j'y arrive. Alors, donc c'était la question que le nom de Dieu n'apparaît pas dans le récit de la Bible. Mais la tradition enseigne, je pense que vous l'avez déjà entendu cela, qu'il y a une allusion quand même assez claire. Lorsque Mardochée dit à Esther, voilà ce qui nous arrive. Il y a une catastrophe qui va nous arriver, Aman est devenu le premier ministre, et il a décidé de détruire la communauté juive. Jusque-là, Esther n'avait pas dit qui elle était. Vous voyez, clandestinité, absolue. Mardochée avait dit à Esther, tu vas devenir la reine. Eh bien, ne dis pas que tu es juive. Jusque-là, c'était ce camouflage. Okay? Et voilà qu'il arrive donc une péripétie où on a besoin d'Esther. Peut-être qu'elle sera le Deus ex machina. Est-ce que j'ai dit sex machina? Non, ex. Et alors, Mordechai lui fait dire, voilà ce qui nous arrive, intercède pour nous auprès du roi. Et il ajoute, et qui sait, peut-être que c'était pour ça que tu devais arriver jusqu'au trône. Maintenant, si tu te tais, si tu n'interviens pas pour nous, la délivrance viendra pour les juifs, ni makom acher, d'un autre endroit, par un autre biais, Mais on oublie la fin du verset. Véal trouvait ta vire, Tobed. Et toi et la maison de ton père, vous serez détruits.
Alors je vais expliquer ça. Et on revient à Pharaon, ça va tout à fait dans la formule de ta question, je pense que tu as compris par toi.
Ça veut dire au fond que ou bien le salut vient de la reine Esther, qui prend le courage de s'identifier comme telle pour sauver son peuple, ou bien le salut va venir d'un autre endroit. Mais il va venir d'un endroit tel que Esther et sa maison vont être détruites. Oui, oui, tout ça nous mène. Or, nous savons que Esther et Mardoché, d'ailleurs, faisaient partie d'une maison royale d'Israël, la royauté de Shaoul. La royauté de celle qui était avant celle du roi David, la royauté de Shaoul. La royauté de Shaoul précède la royauté du roi David. Et l'héritage de la royauté de Shaoul, c'est la famille de Mardoché. C'est-à-dire, Esther était reine, en tant que reine d'Israël déjà. Je veux dire, de capacité de royauté. Et par conséquent, ça signifie, si toi, tu t'identifies pour sauver la communauté juive, c'est bien, sinon c'est d'un autre endroit que le salut viendra, mais il viendra de manière telle que toi et la maison de ton père vous serez détruits. C'est ça qu'on oublie, mais qui nous donne la clé. Vous savez qu'il y a un autre rite de Pourim, c'est qu'à Pourim, il y a l'épreuve du vin, et on doit boire jusqu'à ce qu'on arrive au stade où on risque de confondre Mardoché et Aman. Vous connaissez ce gars, hein? J'ajoute, enfin pour une année passée, mais c'est pour l'année prochaine, on se trompe souvent d'après cette halakha, et on croit qu'il faut passer cette limite. Mais c'est absolument interdit. Je veux dire, l'épreuve du vin, c'est jusqu'au mélange, au risque du mélange, des limites, entre le côté du bien, Mardoché, et le côté du mal, Aman, jusqu'au moment où on risquerait de mélanger ces deux figures, et de s'arrêter là. C'est l'épreuve qui consiste à s'arrêter là qui est la plus difficile. Est-ce que c'est compris? Mais il ne faut pas faire l'erreur de croire qu'il faut arriver jusqu'à rouler dessous la table, etc. En sauvant tout Israël, elle sauve son père. Mais je reviens à ce point. Or, oui, non, mais. Et, c'est-à-dire, si elle se met en risque, en jeu, en disant, eh bien, tu sais, je suis juif, et mon peuple est en danger, si tu tiens à moi, sauve mon peuple. En sauvant son peuple, elle se sauve elle-même. Parce que sinon, en fin de compte, Aman, comme Hitler réussira, arrivera à déceler qui est juif dans le camouflet. Vous voyez ce que je veux dire. Et alors, j'y arrive. L'expression « makom acher » d'un autre endroit pour désigner Dieu est difficile. Nous savons que le mot de « makom » est employé pour désigner Dieu. Mais le mot de Acher fait difficile. Makom Acher. Alors voilà le terme. Ou bien le salut vient de la maison d'Esther et de Mardoché. Okay? Et ils se mettent vraiment en danger. Mardoché prend le courage. Lorsqu'il entend l'édit contre les Juifs, eh bien il prend le deuil. Et alors qu'il était un des dignitaires de la cour et qu'on n'avait pas le droit, du texte, de prendre le deuil dans la cour du roi. C'est il met en place les quatre stratégies à la fois. Les quatre niveaux, voilà. Et, c'est-à-dire, ou bien le salut viendra de la maison de Mardoché, c'est-à-dire d'Esther, ou bien il viendra d'Aman, l'Imakom Acher. Oui. Est-ce que c'est clair? Et si le salut vient d'Aman, alors la maison d'Esther risque d'être détruite. Tu as compris comment ça se relie à ta question? Ou bien la sortie d'Égypte viendra de l'initiative des Hébreux, et c'est à visage découvert, bien viendra, comme l'a dit le texte, et il arriva quand c'est le pharaon qui dut renvoyer le peuple. Et quand c'est le pharaon qui doit renvoyer le peuple, arrivent des catastrophes. Bon, ne fais pas de relation avec la Shoah, parce que ça nous prendrait trop de temps. Enfin, vous voyez que c'est quand même relié. Et ça nous explique en tout cas la fin du verset de la Megillat d'Esther. Si le salut vient par la catastrophe, toi et la maison de ton père, tu seras détruit. Vous voyez donc. Alors il y a dans la Gemara de Sanhedrin qu'à la fin des temps Israël sera sauvé. Comment? Discussion très Rabbi Shaul et Rabbi Eliezer. L'un dit parce qu'ils se repentiront, ils reviendront de même. L'autre dit non, ils ne se repentiront pas. Et s'ils ne se repentissent pas, comme ça on dit, s'ils ne se repentent pas, je leur enverrai, dit la Gemara, un roi plus méchant que Haman, et ils se répondront. Vous voyez, il y a deux stratégies. Et ça commence déjà la stratégie. Ou bien c'est d'eux-mêmes qu'ils répondent à l'appel de Moïse. Ou bien, catastrophe, c'est quand le pharaon a dû renvoyer le peuple. Alors, je reviens à ma question de l'exégèse de tout à l'heure. Il y avait le contraste entre les récits précédents c'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui intervient. Et finalement, ici, notre verset, non, comment le peuple est sorti? Parce que le pharaon l'a renvoyé.
Vous voyez la différence?
Bon. Alors, ça répond à notre problème. Il s'agit d'une partie du peuple, la plus inférieure, disons, au niveau du mérite de la foi dans cette vie, qui n'est sortie que parce que le pharaon l'a renvoyé. Et c'est cette partie qui n'est sortie que par la foi, parce que la partie inférieure, oui, la première, qui n'est sortie que parce que le pharaon l'a renvoyé, que nous retrouvons dans la première catégorie d'un résultat, ceux qui ont dit, eh bien, on est perdu, le pharaon s'est ravisé, alors il ne faut pas retomber sous sa coupe, on va se jeter dans la mer. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est-à-dire, ici, dans les versets que nous venons de lire, le peuple est désigné à différents exposants, si je veux dire, à différents niveaux d'identité. Ça c'est Vaïli, Béchalar, Paro et Aram, le premier et Aram correspond au premier niveau. Vous savez jusque-là? C'était une des questions habituelles du Midrash. Comment se fait-il qu'on nous dise que le peuple n'est sorti que parce qu'il était renvoyé par le pharaon? C'est la partie correspondante à cette attitude-là. Il y en a d'autres. Deuxième partie. Et Dieu ne les a pas dirigés par le chemin des Philistins. Littéralement, c'est le pays des Philistins, je vous explique ça très rapidement. Vous voyez la carte de géographie, vous avez l'Égypte, et plus haut, Eretz Israël. Or, pour sortir d'Égypte, il y avait un chemin direct par la côte qui, d'après les récits bibliques, en 11 jours de marche, il serait déjà arrivé à Jérusalem. Et c'est pas ce chemin que Dieu leur a fait prendre. Bon, je ne vais pas prendre trop de temps, parce que nous avons plusieurs versets à lire, pour chaque unité de lecture. C'est la côte qui s'appelle Eretz Pelishtim. Et Pelishtim, c'était une peuplade venue de Crète. Et d'ailleurs, leur origine était d'une région d'Asie mineure beaucoup plus haute, et qui avait des comptoirs de colonies sur la côte d'Eretz Israël. En particulier, vous voyez, elle a riche, Aza, surtout Aza, et puis Ashkelon, enfin toute cette partie-là. Enfin, toute la côte qui va de l'Égypte jusqu'à Tel Aviv pratiquement, cette bande côtière s'appelle Eretz Pelishtim. Et ce chemin-là aurait été le chemin le plus proche, mais ce n'est pas ce chemin que Dieu va faire prendre au peuple, et comme on l'explique la Torah, qui a marré l'Ophim, car Dieu s'était dit, « Peninachem ha'am birotam milchot » de peur que le peuple ne regrette d'être sorti en voyant qu'il y avait une guerre à livrer pour pouvoir entrer dans le pays. Mais Shavu Mitzrayma, et qu'il ne décide de retourner en Égypte. La deuxième catégorie. La première catégorie est celle qui n'est sortie que parce que le pharaon les a expulsés. Celle-là, on la retrouve dans la Mérita, c'est ceux qui ont dit, ah bon, il a changé d'avis, on est perdu, alors perdu pour perdu, on se jette. Dans la mer. La deuxième partie était sortie d'elle-même, mais avec une faiblesse dans le courage qui fait que s'il y a difficulté, on préférera revenir. Vous voyez la deuxième partie. Et alors là, nous avons un problème d'exégèse. C'est que vous voyez dans ce texte, il n'y a aucune allusion à une raison du passage au désert que l'on attend depuis le début du problème. C'est qu'après la sortie d'Égypte, il fallait passer au Sinaï pour recevoir la Torah. Okay? Or ici, on n'a aucune allusion à cela. Pourquoi on est passé au Sinaï? Parce que le peuple n'était pas suffisamment fort pour entrer directement en Eretz Israël et la Torah. Est-ce que vous voyez la difficulté? Est-ce que c'est clair? Là, j'analyse un peu plus, de façon un peu plus générale, cet aspect du problème. Nous verrons que ça correspond. Et ça correspond d'ailleurs à la troisième partie. Verset 11, Vayase Elohim et Aram, et Dieu fit contourner le peuple d'Erech Hamidbar par le chemin du désert Yamsouf, par la mer Rouge, et la quatrième partie c'est par Hamushim, ceux qui étaient armés prêts à. Donc. Et vous voyez, ici dans ce verset, le verset 11, on s'attendrait à une toute autre motivation. On s'attendrait à une motivation qui nous dirait finalement le peuple à la sortie d'Égypte n'est pas rentré directement en Eretz Israël, parce qu'il devait passer par le Sinaï pour recevoir la Torah. Il n'y a absolument pas allusion à ça. Donc, il faut prendre le récit d'une toute autre manière. Ce n'est qu'a posteriori, étant donné les raisons que nous allons apprendre ici, que le peuple devait passer par le Sinaï a posteriori de ce fait. Mais la raison essentielle, c'était sa faiblesse. Okay? Sa faiblesse dans la foi, disons à la limite, que a posteriori, la stratégie de la Providence servira de cet événement pour donner la Torah au Sinaï. Mais ce n'est pas a priori. A priori, dès la sortie d'Égypte, il fallait rentrer en Israël. Mais voilà qu'il y a des raisons qui empêchent. Alors on va passer au désert. Si déjà on passe au désert, rendez-vous au Sinaï pour la Torah. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Et donc pas a priori, mais a posteriori. Et c'est indiqué par Derech HaMidbar. Tout ça, nous l'apprendrons en détail dans toute la semaine avec le commentaire du Maharal sur la page. Et enfin, fin du verset, Bachamushim, Alou Bene Israël, mérite Israël. Et là, nous avons une première traduction. Bachamushim, ça veut dire armé, prêt à faire la guerre. Hamush, ça veut dire décidé à. Deuxième traduction du Midrash, c'est en colonne par 5, c'est-à-dire en formation de guerre. Hamushim. Comment dire, sur 5 colonnes, en par 5. L'infanterie, en ce temps-là, allait à la guerre en rang par 5, Hamushim. Et donc, ils étaient armés. Hamushim. Mezouyanim, va dire le Midrash. Les Aïd, ça veut dire les ustensiles de combat. Et puis, alors que les équipages des chars étaient chalichim, par 3. Bon, ça c'est donc la lecture simple. Et puis le Midrash va intervenir en disant « Hamushim, ça veut dire 1 sur 5 ». C'est ce fameux problème de la proportion des 4 cinquièmes et 1 cinquième. Vous êtes au courant de ce thème? Okay.
Est-ce que
vous avez
bien un métallier à côté que...
Oui, nous allons voir ça après. En réalité, nous verrons ce texte-là. Dieu dit à Moïse, à la vision du buisson ardent, lorsque Moïse demande un signe pour habiliter sa mission, parce que Moïse dit, mais je vais aller leur dire, c'est le temps de sortir d'Égypte, ils ne vont pas me croire. Alors Dieu lui dit, les Zélecha Aot Asher Anochi Shemarticha. Et voici pour toi le signe que c'est bien moi qui t'ai envoyé. Mais aussi à Aram, Mimitsraïm, lorsque tu feras sortir le peuple, les niveaux qui s'appellent peuple et non pas Bené Israël, c'est clair, Ta'abdoum et Ta'elokim va raser. Vous viendrez rendre un culte à Dieu sur cette montagne. Ça veut dire, si effectivement tu te heurtes à un refus de la part du peuple, amène-les ici, c'est ici que j'habiliterai ta mission. Mais c'est a posteriori. Il fallait d'abord que Moïse se débrouille à les faire sortir. Le signe dont Moïse avait besoin, c'était en Égypte. Est-ce que c'est clair? Vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire, tout se passe comme si Dieu dit à Moïse, si le peuple te suit, c'est très bien, rentrez directement à Jérusalem. Mais non, s'il ne te suit pas, amène-le ici. Parce que s'il ne te suit pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore capables d'arriver directement. Il a fait un stage, un séminaire avec Moïse au Sinaï. Et alors, mais vous voyez la difficulté pour Moïse? Tout se passe comme si Dieu lui dit, et s'ils doutent de toi, amène-les là, c'est là que je leur donne rendez-vous, au Sinaï, pour la Torah. Mais oui, que la Torah n'est révélée au Sinaï que a posteriori, de façon négative, parce que le peuple n'a pas mérité plus. Le verset de la révélation de la Torah est très clair, c'est « Ki mitzion et Torah ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire que la Torah est révélée au Sinaï? Pourquoi pas à Tzion? Vous voyez que le... Et vous voyez que là encore, ça nous identifie des situations historiques permanentes et aussi contemporaines. C'est-à-dire qu'il y a les Juifs du Sinaï, et ils sont partout, sauf en Eretz Israël, et les Juifs de Tzion, qui sont à Tzion. Vous voyez la différente identité qui apparaît. Mais c'est très important de voir cela. Sur ce problème, il y a deux attitudes. Que l'objectif de la sortie d'Égypte, c'était d'aller au Sinaï recevoir la Torah, et après on verra bien quand le Messie viendra, il nous amènera peut-être à Jérusalem. Vous voyez, c'est une première attitude. La deuxième attitude, c'est, et d'après le contexte strict, l'objectif de la sortie d'Égypte, c'était de rentrer en Eretz Israël. Mais comme on n'a pas pu, pour des raisons qu'on va nous expliquer, alors, détour par le Sinaï, stage au Sinaï pour recevoir la Torah. Vous
y êtes. Il semblerait que l'archéologue ait découvert que la région
Oui,
des colonies.
Vous savez, il y a eu des guerres, des contre-guerres, des occupations, des contre-occupations.
De toute façon, cette chose-là était à éviter de toute façon. se retrouver avec le virus.
Pour cette raison et pour d'autres aussi.
Oui, non, c'est sûr.
C'est-à-dire de voir qu'il y avait un risque de guerre. Alors ceux qui voient qu'il y a un risque de guerre, ils ne sont pas capables de dire troisième catégorie qui prend la guerre, c'est la deuxième catégorie qui a peur de la guerre, cela dirait on retourne en Europe. Mais il y a longtemps qu'on savait ça.
Oui.
Il y a longtemps qu'on savait ça.
La découverte, disons,
propre. Oui, il y avait dans le pays de Canaan, il y avait des colonies égyptiennes. Mais en fait, c'était des envahisseurs, mais les envahisseurs originels, c'était les Philistins. C'est vrai que le mot, en hébreu, le mot de Plishtim, ça veut dire les envahisseurs, du floche, ça veut dire occupé. Hein? C'est extraordinaire, d'ailleurs, Madame Amado Valenci a écrit quelque chose là-dessus, je ne sais plus en quelle année. C'est significatif que les Palestiniens ont pris le même nom. Parce que finalement, comment dire, le mot de Palestine, ça voulait dire la Philistée. Hein? Ça veut dire, c'est vous voyez, l'ironie du langage. Ça veut dire l'identité palestinienne, ça veut dire l'identité des conquérants qui ne sont pas chez eux, les Philistins, en hébreu. Parce qu'on entend Palestine, en arabe, ça veut dire Pélishtim. Et oui, d'après le récit historique, ils sont tombés dans un piège du langage. Bien. Si vous voulez, d'une certaine manière, seules ces deux parties du peuple, qui sont appelées les Israël, pouvaient directement quitter l'Égypte et rentrer dans le pays. À cause des trois autres parties, il a fallu faire ce débat. Ce que nous allons étudier par rapport à l'événement de la mer Rouge, c'est la différence de réaction de ces différentes parties. Les quatre là, Dieu refuse leur stratégie. Et Israël est déjà très haut. Il s'appelle Bnei Israël. Et ils font allusion à la prière. Et finalement, c'est seulement la cinquième, du verset 8 du chapitre 14. Vous avez bien la référence. Vous pouvez préparer ce texte pour demain. Du verset 8 du chapitre 14, où Bnei Israël yotzim viadrama. C'est de cette catégorie-là que fait partie Nachon Béhan et Nadam, qui comprend ce que Dieu dit à Moïse. La verre et la rame d'Israël. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Nous verrons tous ces midrashim qui disent qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ni à se désespérer, on va se suicider, ni à renoncer, on va retourner en Égypte, ni à faire la guerre, ni à prier, parce que tout ça s'est bouché. Toutes ces stratégies sont impossibles. Il y a une seule stratégie de survie possible qui rentre dans la mer. Et on verra bien ce que c'est. C'est le problème. Et ça va déclencher la fin de la civilisation égyptienne, puisque toute la force de l'Égypte va être engloutie dans la mer. Cataclysme, hein? Et voyez comment dit le verset lui-même, et rendez-vous à la fin des temps. Comme vous avez vu l'Égypte maintenant, vous ne reverrez plus jusque quand ça recommencera. J'en ai profité tout à l'heure pour vous dire que c'est la grandeur du Maharal et de toute cette lignée de commentateurs qui ont expliqué ces textes, non seulement en éclairant ce qui est arrivé dans le passé, mais en donnant la signification des termes d'identité pour nous prévenir de ce qu'est la structure de notre histoire. Et des éventuels. C'est très frappant que nous retrouvions aujourd'hui, dans des styles différents, les mêmes attitudes. Devant la difficulté de cette impasse que je décris tout à l'heure, quand même, dans les détails de la formule du Midrash, devant la difficulté, nous avons ces quatre réactions. Il y a ceux qui disent on est perdu. Comment c'est comme on disait. Il y a ceux qui disent et rien. On retourne en Égypte. Pèlerinage en Égypte, enfin, vous voyez comment ça. Non, pas pèlerinage. Tourisme en Égypte. On retourne en Égypte. On était si bien là-bas. Et puis, il y a ceux qui disent, eh bien, il faut faire la guerre. Et puis, on verra bien l'issue de la guerre. Il y a ceux qui disent, il faut prier. Et ils prient. Et puis, Dieu n'est pas d'accord avec tout ça et dit non, avance. On va voir comment ça veut dire tout ça. Non, pas de problème. Et jetez-vous dans l'eau. Bien. Qui se jette avec espoir. Non. On verra dans la cinquième récapitule des quatre. Non. Très bonne question. Ça veut dire, si on abdique la liberté, on laisse le mécanisme jouer, voilà comment ça joue. C'est pas une nécessité. C'est une sorte d'avertissement. Ça veut dire, voilà la structure du phénomène lorsqu'il fonctionne impersonnellement. lorsque la liberté individuelle... Mais si la liberté individuelle joue, on fait reculer l'aspect fatalité de l'événement.
Est-ce que ma réponse est suffisamment claire?
Comment? Et c'est exactement ce que disaient les Hébreux de la même génération. Et de la génération dont ils disaient, il nous faudrait Moïse, parce que Moïse, il ne croyait pas en lui. C'est nous qui savons qu'il était vrai. Vous voyez le problème? C'est un événement supplémentaire. Comment? Moïse a été contesté, oui. Ils attendaient un Moïse.
Oui, je crois. Fais bien attention. C'est clair.
C'est très frappant comment. Oui, il y a. Indépendamment de la réponse que je vais utiliser d'ailleurs dans ma conférence sur le sujet général, c'est-à-dire s'il y a abdication de la volonté, alors on rentre dans un monde pessimiste où les mécanismes jouent et broient les personnes humaines. Okay? Mais, donc, la réponse en elle-même est optimiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. On peut faire jouer la liberté. Mais où le pessimisme revient, c'est qu'il semble bien qu'on ne la fait pas jouer. Alors qu'est-ce qui joue? Il semble bien qu'il y a abdication de la liberté. Et qu'effectivement, comme vous dites, ces structures apparaissent inévitablement.
Est-ce que c'est exact?
Alors ça, j'espère arriver un peu à expliquer, d'après Maïmonide, la réponse que la Torah donne à ça, pourquoi il faut y passer d'une certaine manière. Mais ça sera un tout autre. Au moment, restons dans l'exégèse de l'événement de l'histoire. Est-ce qu'il y a une autre question là-dessus? Ah, ça, je vais le faire. Je vais le faire au niveau d'abord de l'identité individuelle. Bon, ça, il me faut au moins une demi-heure pour cela. Mais simplement, je voulais indiquer la correspondance formelle. Attendez, quelle heure est-il?
Il est 11h30.
Il est 11h30. Alors, écoutez, on va prendre 2 minutes d'aération, mais d'abord une question. Le séminaire a été fixé à 10h. Et j'ai vu qu'il y a toute une partie des participants qui sont venus en retard. Est-ce que 10h c'est trop tôt pour vous? Vous voulez qu'on commence bien? Il reste 2 questions à voir jusqu'à 12h30. La première, c'est la signification, nous le verrons de façon un peu formelle, des différents niveaux de la Neshama. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est que ce peuple par rapport à Bnei Israël? C'est-à-dire, finalement, les 3 niveaux, disons, inférieurs à l'échelle de l'identité collective d'Israël. Alors, d'abord, la première question, essayez de vous identifier un peu en français, c'est différents niveaux de force. Tu voulais poser une question? C'est de ça qu'on va parler. C'est d'ailleurs pas un certain commentaire, c'est un commentaire certain, on va le voir tout à l'heure.
Est-ce qu'il aurait pas été possible, quand même, dans le peuple, il y avait des idolâtres, est-ce que c'est pas possible de les faire?